Je vous présente Evangelia Stead. Bonsoir. Alors Evangelia, j'ai rassemblé quelques éléments vous concernant, j'ai fait mon enquête policière et il faut vraiment me corriger si les informations ne sont pas exactes. J'ai appris que vous enseignez la littérature comparée à l'université de Versailles-Saint-Quentin et que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Voilà. Que votre laboratoire de recherche s'appelle le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Je crois savoir que vous êtes grec ou d'origine grecque, je ne sais pas exactement.
Né en Grèce.
De parents grecs. Vous avez pourtant un nom de famille qui a une consonance anglo-saxonne, mais voilà. Tout arrive. La première fois que nous vous avons invité aux Assises, c'était en 2013, je m'en souviens, c'était pour nous parler des aventures de Sinbad le marin. Dans une table ronde, au cours d'une table ronde qui traitait des grands naufragés et lors de ces assises qui s'appelait Traduire la mer. Et donc à cette occasion-là, nous avons donc appris que vous fréquentiez la langue arabe,
un petit peu.
Et vos travaux portent par ailleurs sur le Faust 1 de Goethe, sur la lecture, sur l'iconographie. Dans ce volume-ci dont nous allons parler aujourd'hui, dans la toile d'Arachné, vous avez traduit des textes depuis l'allemand, depuis l'anglais, depuis l'italien. Vous avez également révisé quelques traductions depuis l'espagnol. Dans les autres langues et domaines fréquentés que votre CV indique, j'ai trouvé également les littératures grecques anciennes et modernes, latines, roumaines et les littératures maghrébines et arabes, on l'a évoqué. Donc voilà, ma question c'est, il paraît qu'avec les langues, c'est les 8 premières qui sont les plus difficiles à apprendre. Et on a rarement l'occasion d'avoir quelqu'un pour infirmer ou confirmer cette affirmation. Donc puisque vous êtes là et que je vous tiens, est-ce que c'est vrai?
C'est vrai et pas vrai. C'est vrai et pas vrai. C'est bon? D'accord. C'est vrai et pas vrai parce que... Parce que j'ai
un peu pour que ce soit plus confortable, pour pas avoir à vous pencher.
Voilà. J'ai été très à l'aise effectivement dans les langues romanes par exemple, et je ferai encore une langue romane, par exemple le portugais, je pense assez facilement. Mais quand j'ai commencé ma première langue sémitique sur le tard, donc l'arabe littéral, j'ai trouvé que ce n'était pas vrai du tout, parce que c'est une famille de langues qui fonctionne très différemment, et donc on perd complètement les repères qu'on a dans les langues européennes, ne serait-ce que de syntaxe, et bien sûr aussi les repères phonétiques qu'on a, la manière dont on construit les phrases, la manière dont on pense, tout simplement. On est devant une langue à dérivation, et ça ne fonctionne plus du tout de la même manière. Donc, vrai et pas vrai.
Oui, donc, là, vous avez parlé de votre première langue sémitique. Est-ce qu'il y en a d'autres au tableau de chasse, ou alors est-ce à venir?
Non. Vous savez, l'arabe, c'est comme le grec, c'est une langue océan. C'est une langue qui a vécu très très longtemps. Et une fois qu'on est dedans, voilà, on y reste. Pendant longtemps.
Très bien. Nous allons donc aujourd'hui parler de Dans la toile d'Arachné, une anthologie que vous avez préparée avec Sylvie Balestra-Puech et dans laquelle vous avez réuni des textes qui retracent un petit peu la fortune littéraire d'un mythe qui est celui d'Arachné, qui est un mythe qui apparaît dans les Métamorphoses d'Ovide. Et cette fortune, vous la suivez sur des textes qui s'échelonnent entre la fin du 18e, je crois, ou le début 19e, et la littérature contemporaine, enfin fin du 20e. Est-ce que vous voulez déjà nous dire quelques mots sur cette source, les Métamorphoses d'Ovide, et comment il vous est venu le désir de rassembler ces textes autour de ce mythe?
Oui. D'abord, je suis très contente de prendre la parole ici. Et je vous remercie de cette invitation, non seulement parce qu'on est au cœur de la traduction, mais aussi parce que vous avez consacré du temps aux Métamorphoses d'Ovide, qui est un grand texte.
C'est une allusion à notre conversation, parce qu'effectivement, en 2018, nous avons eu deux rencontres littéraires, l'une avec Daniel Robert qui a traduit les Métamorphoses d'Ovide en endécasyllabes et qui a fait l'édition chez Actes Sud, et l'autre avec Marie Connet qui a fait une édition aux éditions de l'Ogre, qui est une édition en vers libre et qui a un parti pris complètement différent. Voilà.
Donc c'est une très belle occasion pour présenter le livre qui vient à peine de sortir.
Il est en librairie seulement la semaine prochaine, quelque chose comme ça.
Ouais. Il sera en librairie officiellement le 6 juin. Donc c'est une sorte d'avant-première. Et c'est un projet qui remonte à une vingtaine d'années. Lorsque Sylvie Balestra-Puech, qui travaillait sur les parcs, a suivi le fil, c'est le cas de le dire, et elle est arrivée jusqu'à Arachné. Et moi, j'avais travaillé sur des figures monstrueuses, diverses et variées, et j'avais rencontré cette figure très insistante de la femme araignée. Et donc, chacune de son côté s'est mise à réunir des textes ou à creuser un petit peu plus. Et comme on se connaît depuis très longtemps, hein, et on s'entend très bien, donc lors d'un déjeuner, elle m'a dit, j'ai ouvert ma boîte aux araignées. J'ai dit, mais c'est quoi cette boîte aux araignées? Et donc, on s'est trouvé travailler en parallèle sur cela. Sylvie a fait un livre aux éditions Audreau qui correspond à son habilitation. Donc, elle a suivi la figure de l'artiste en araignée dans la littérature européenne. Et on a décidé, lorsque le moment viendrait, de publier un livre centré sur la nouvelle fantastique ou la nouvelle, disons, imaginaire, pour montrer à quel point ce type de texte qu'on croirait à mille lieues de la littérature antique relève en fait d'une influence très forte des Métamorphoses d'Ovide. Voilà, c'est ça l'idée centrale. Montrer comment la fantaisie, par exemple, s'inspire encore d'Ovide et de l'araignée d'Ovide.
Alors, cette histoire au sein des Métamorphoses est très courte. Hein, quand on la lit, elle fait, je sais pas, 2-3 pages. Oui. Mais elle mérite donc, même si elle a connu toute cette fortune littéraire, d'être rappelée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu l'histoire plutôt que de la lire? Parce que c'est quand même une énumération qui serait un petit peu fastidieuse à lire, là, en introduction. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, de ce défi entre Athéna et Arachné?
Oui, bien volontiers. Alors, je vais non seulement vous raconter, mais également vous montrer quelques images qui montrent ce qui se passe. Donc, elle est difficile à lire, vous verrez pourquoi, parce qu'il y a toute une série d'allusions. Et en fait, cette série d'allusions mythologiques empilées, d'une certaine façon, correspond à une manière de faire le poème. Donc, on a un duel, on pourrait dire, par tapisserie interposée. Arachné, qui est une jeune fille orpheline, elle n'a qu'un père qui est Foulon, donc il est très proche de son métier, est très fière de son art et elle est reconnue aussi pour son art. Athéna, qui est la déesse de la guerre et du tissage, relève ce défi. Elle se déguise en vieille femme, débarque dans l'atelier d'Arachné et la provoque donc à un duel de tapisserie sans se révéler. Le duel a lieu, chacune tisse une tapisserie, chacune des tapisseries est décrite, longuement décrite. Et en fait, ce n'est pas dit, mais celle qui gagne le concours est Arachné. Athéna, folle de colère, la frappe. Et vous voyez ici un carton de Rubens qui montre la violence et la colère de la déesse. Vous voyez aussi derrière une tapisserie qui n'est pas celle d'Arachné, mais qui représente une fable tissée par Ovide. Une fable dépeinte par Ovide, c'est donc l'enlèvement, le rapt d'Europe.
C'est joli de dire tissé, puisque tissu, oui, et texte ont la, oui, même bien origine, sûr. Bien sûr.
Bien sûr. Donc, il y a cette scène. Et on a ici une autre interprétation qui est très intéressante. Ça vient de Boccace, parce que Boccace et Christine de Pizan sont peut-être les premiers auteurs à en parler de manière favorable, de manière intéressée. Il place Arachné parmi les femmes qui ont fait des inventions remarquables. Et vous voyez ici, la gravure sur bois montre très bien le parallèle entre le métier à tisser qui est vertical, Arachné qui se pend, et puis sa métamorphose en toile d'araignée. Alors, c'est aussi une diapo qui permet de voir comment l'histoire continue. Donc, au moment où Athéna la frappe, et il la frappe à la tête avec sa baguette et déchire sa tapisserie, regardez la violence de la déchirure, ça c'est une interprétation moderne donc, de la tapisserie déchirée. À ce moment-là, Arachné se pend de désespoir parce qu'elle ne peut pas vivre indépendamment de son œuvre. Et c'est à ce moment-là que Athéna la maudit et la métamorphose en araignée. Elle maudit aussi toute sa lignée, c'est un trait important, et la condamne à tisser éternellement. On a donc une explication étiologique, parce que c'est le sens même du poème d'Ovine, du pourquoi cet animal tisse inlassablement une toile, dès que sa toile est déchirée, et la retisse. Donc je vous avais apporté cette petite image que j'aime bien, que j'ai utilisée comme le fond de l'écran. Et une autre chose importante, c'est que ces deux tapisseries donc, correspondent à deux manières de faire un poème. Et c'est particulièrement intéressant pour ce qui est des métamorphoses, parce que les métamorphoses sont un long poème épique. C'est des histoires qui sont écrites sur le maître épique dans des très longs chants. Et c'est d'ailleurs la différence de la traduction entre Daniel Robert et Marie Connet. Marie Connet a été attirée par la petite histoire, par l'anecdote, n'est-ce pas ? Et Daniel Robert a cherché à se rapprocher davantage du maître épique. Et Ovid a réussi à faire une espèce d'exploit. Il a été entre les deux, en fait. Il a fait un grand poème épique, mais ce grand poème épique est plein de petites histoires, parfois en quelques lignes. Et donc, c'est un tissage continu de fable sur fable, n'est-ce pas ? Et c'est la difficulté, d'ailleurs, que vous mentionniez tout à l'heure. Quand on lit ce texte, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Quand on arrive à la tapisserie d'Arachné, par exemple, c'est extrêmement difficile, parce que ces deux tapisseries correspondent à deux façons de penser et à deux manières différentes de faire un texte. J'ai dit, par exemple, aux étudiants, pour les rassurer, que quand on fait une très belle dissertation avec les trois parties, les transitions, etc., etc., on tisse la tapisserie d'Athéna, quelque chose de très clair, avec posé sur une pensée symétrique, avec les règles qu'on connaît bien. Et quand on va du côté d'Arachné, on est dans un autre type de poésie que la fin de l'Antiquité connaît très bien, et qui est la poésie alexandrine. On n'est plus dans le poème épique, on est dans le petit épos, qu'on appelle l'épilion. Donc, on tisse par allusion, c'est une poésie plus savante, plus désordonnée aussi. Enfin, elle peut sembler désordonnée, n'est-ce pas ?
Alors, les sujets abordés, en plus, par Arachné, on comprend que ça met en rage Athéna, parce que ce sont toutes les turpitudes des dieux, quand même. Oui. C'est à chaque fois les métamorphoses des dieux, c'est une succession de viols, en fait.
C'est non ? Ça. Elle tisse les métamorphoses. Et c'est, on comprend que l'intérêt d'Ovide pour cette fable, parce qu'elle tisse quand même des métamorphoses, mais ce sont des métamorphoses impies. Donc elle tisse le désir des dieux pour les mortels, et ces dieux se métamorphosent en animaux. Ou en vagues, d'ailleurs, il y en a un qui
en pluie d'or aussi.
En pluie d'or, en vagues, etc. Donc, on s'est beaucoup intéressé à ça. Vous comprenez aisément pourquoi, maintenant que je viens de dire ça. Et on s'est aperçu, en revenant d'ailleurs aux textes antiques, qu'on pouvait, si on regardait Ovide, avoir une explication du type « on a un personnage qui s'appelle Arachné ». N'est-ce pas ? Et Ovid raconte une fable étiologique qui nous conduit à l'animal. Donc on comprend pourquoi Aranea vient, en latin, vient d'Arachné. On va donc du nom propre au nom commun. Mais en grec, quand on regarde comment les choses se passent, et évidemment c'est une fable grecque, on pourra y revenir, on a un animal qui s'appelle Arachné. Et c'est cet animal-là qui donne naissance à une figure qui emporte le nom. Et donc probablement, mais ça, vous savez, personne n'était là au début, et on ne saura jamais, probablement ce qui a dû se passer dans l'imaginaire humain, c'est que l'imaginaire est fasciné par l'existence de cet animal, existence très ancienne sur la Terre, et donc on a pu élaborer toute une série d'histoires, d'anecdotes, de fables qui, petit à petit, se sont concrétisées à l'histoire qui nous a transmise Ovide.
Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par parler un petit peu de la structuration du livre, entre ses différentes parties?
Oui.
Il est organisé en plusieurs sections qui, chacune, correspondent à une certaine image de l'araignée, puisque en fait c'est une figure tout à fait ambiguë, oui. qui peut adopter des aspects tout à fait effrayants et négatifs dans l'imaginaire humain, comme des aspects qui sont beaucoup plus proches de la figure de l'artiste, on le verra à la fin, et avec plusieurs figures intermédiaires également. Alors la première section du livre concerne les araignées du diable et les amours monstrueuses. Et là, donc, il y a plusieurs textes, parmi lesquels nous avons choisi ce soir de lire des extraits de quelques-uns. Et puisque vous faites, Gabor, je t'inclus, hein, j'inclus tout le monde, mais puisque vous faites un atelier de poésie, on va commencer tout de suite par lire un poème de Otto Julius Bierbaum, qui est un auteur alors, dont je vous laisserai dire deux mots, mais peut-être qu'on commence par le lire et puis on parlera de lui après. Voilà, alors Evangelia, vous le lisez en français, puis je le lirai en allemand après.
L'araignée. Ouvert dans la nuit, mon œil se promène, fixe au fond du rêve, sur une géante arène. C'était une surface large, illimitée, et mes yeux contemplaient l'éternité. Grise comme du plomb pesante, venait en courant une araignée géante. Des fils noirs gluants, elle tisse pour les répandre. Aveugle semble-t-elle la grise tisserande. Aux mailles de sa toile emprisonnée, pendaient des cœurs humains, saignants, déchiquetés.
Meine Augen waren Nächten aufgetan, starr im tiefen Traume einem Riesenplan. Eine Ebene war es unermesslich weit, und meine Augen sah die Unendlichkeit. War wie Blei so grau, war wie Blei so schwer, eine Riesenspinne lief darüber her. Schwarze Klebefäden wob sie her und hin, blind, so schien mir, war die graue Weberin. In der Spinnewebe Maschen eingenetzt, hingen Menschenherzen blutig und zerfetzt.
Qui est ce monsieur Bierbaum qui aime bien se faire dresser les poils sur les avant-bras?
Alors Bierbaum est un... Je n'aime pas beaucoup le mot de polygraphe, hein. Parce qu'en français, il a des connotations assez condescendantes, je trouve. Mais c'est quelqu'un qui a pratiqué les lettres dans tous les sens du terme. Il a été directeur de revue, il a écrit des romans, il a été mêlé au monde des cabarets, de la grande époque des cabarets berlinois. Il a fait de la poésie. Et ce poème vient d'un recueil qui est plein de petits poèmes astucieux, surprenants, moraux également, parce qu'il y a dans certains une volonté morale qui s'appelle « Ihr Garten der Liebe », donc le labyrinthe de l'amour. 1901, c'est très représentatif de, du climat fin de siècle. Donc on a cette figure géante de l'araignée qui tisse sa toile, et cette toile donc tient entre les mailles comme victime les têtes d'hommes. Bon, on a une sorte d'allégorie gigantesque, parce qu'elle est en plus géante.
On pense à Fuseli, à des gens comme ça. Enfin, ça part vraiment comme un cauchemar.
Oui.
Et on a donc là la figure d'une sorte de vampire qui s'attaque.
Oui. C'est une araignée vampire.
C'est une araignée vampire.
C'est une araignée vampire. En même temps, c'est une représentation de la femme fatale. C'est aussi c'est un cauchemar, mais en même temps, il y a quelque chose de très intéressant dans ce poème qu'on pourrait analyser, hein, mais on ne va pas le faire ce soir. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que on pense qu'on lit un cauchemar, mais en fait, au premier vers, on est dans le cauchemar. Parce que l'œil s'ouvre et voit, donc on s'identifie très facilement avec le jeu, n'est-ce pas, du poème, et on est dans le cauchemar, on voit cette vision. Et ce n'est pas comme si ça se passait, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas comme si ça se passait quelque part loin dans un rêve imprécis dont on serait revenu. On a une vision directe sur ce qui se passe, et cet œil qui s'ouvre dans le noir et voit cette vision a quelque chose de tout à fait inquiétant. Et en même temps, moi je trouve, je ne sais pas comment vous le trouvez, mais je trouve que le rythme de ce poème est pimpant. Il est prime sautier, il est presque joyeux, je dirais. Et on a ce mélange et même ce brouillage qu'on a aussi au début du Faust de Goethe, où vous avez un monologue mélancolique par excellence, et il est raconté en vers de foire. Donc, ce sont tous ces aspects qui rendent le poème intéressant.
On pourrait le mettre en résonance avec un autre texte qui fait partie de cette section, qui a été écrit 10 ans auparavant, pour le coup par un Français, Marcel Schwob, qui lui aussi nous donne une figure d'arachnée. Dangereuse, mais alors avec une teinte qui appuie encore sur le côté féminin, puisque c'est un texte qui insiste beaucoup sur la sensualité. Voilà.
C'est ça.
Alors, je vais le lire.
D'accord.
Jour après jour, ici, dans ma cellule blanche, elle s'est révélée à moi depuis l'heure où j'ai aperçu une araignée qui tissait sa toile au-dessus de mon lit. Elle était petite, brune et vive des pattes. La première nuit, elle est descendue jusqu'à moi le long d'un fil. Suspendue au-dessus de mes yeux, elle a brodé sur mes prunelles une toile soyeuse et sombre avec des reflets moirés et des fleurs pourpres lumineuses. Puis j'ai senti près de moi le corps nerveux et ramassé d'Ariane. Elle m'a baisé le sein, à l'endroit où il couvre le cœur. Et j'ai crié. Sous la brûlure. Et nous nous sommes longuement embrassés sans rien dire. La seconde nuit, elle a étendu sur moi un voile phosphorescent piqué d'étoiles vertes et de cercles jaunes, parcouru de points brillants qui fuient et se jouent entre eux, qui grandissent et qui diminuent et qui tremblotent dans le lointain. Et, agenouillée sur ma poitrine, elle m'a fermé la bouche de la main. Dans un long baiser au cœur, elle m'a mordu la chair et sucé le sang jusqu'à me tirer vers le néant de l'évanouissement. La troisième nuit, elle m'a bandé les paupières d'un crêpe de soie marâtre où dansaient des araignées multicolores dont les yeux étaient étincelants. Et elle m'a serré la gorge d'un fil sans fin. Et elle a violemment attiré mon cœur vers ses lèvres par la plaie de sa morsure. Alors elle s'est glissée dans mes bras jusqu'à mon oreille pour me murmurer « Je suis la nymphe arachnée. »
Merci.
Voilà. Donc,
Donc, vous avez vu que ce passage, bon, évidemment, il y a la femme araignée dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Mais surtout, il y a une gradation extrêmement intéressante sur le phénomène de l'illusion. La nymphe arachnée qui arrive et qui lui bande les yeux est en fait une figure de l'illusion. Et c'est un texte particulièrement intéressant parce que Schwab, qui est un écrivain très savant et une très belle plume, a mis à ce texte un extrait de la fameuse tirade de la nymphe Mab, de la reine plutôt Mab, qui est la reine des fées. Ça vient de Roméo et Juliette. Dans la littérature anglaise, c'est un passage extrêmement célèbre. Donc la reine des fées descend sur les yeux des dormeurs et sème l'illusion. C'est la reine du rêve, d'une certaine façon, mais aussi la reine de l'illusion. Et ce que Schwab détaille ici est une série de voiles, voiles illusoires. Alors, il faut savoir aussi que c'est un narrateur fou qui parle, hein, et on retrouvera un petit peu plus loin la folie. Ce n'est pas un hasard qu'on dit en français « j'ai une araignée au plafond ». Et ce n'est pas un hasard non plus si l'allemand, on en parlait l'autre jour, emploie le verbe spinnen, tisser, au sens figuré pour dire délirer.
Est-ce qu'il y a d'autres langues qui, comme ça, font des raccourcis qui se prêtent au jeu de mots entre le nom de l'araignée et... Ça vous vient pas tout de suite.
Ça ne me vient pas tout de suite, oui. D'accord. Mais l'anglais a des expressions qui se rapprochent. Ouais. Oui.
Oui, on le verra tout à l'heure avec Spinster. Mmh. Ouais. Alors justement, on va passer dans une autre section maintenant. Ah non, pardon, on va d'abord lire un extrait de John Wyndham, More Spinned Against,
oui.
Qui est votre texte préféré, m'avez-vous dit, de ce recueil.
Ça, c'est mon texte préféré de ce recueil. On ne va pas vous raconter l'histoire, mais c'est un texte, en fait, qui met à distance, parce que, évidemment, on a rencontré cette figure à répétition, hein, la figure de la femme fatale qui prend les allures d'une araignée, mais on a trouvé aussi des textes qui la mettent à distance, dans la littérature du XXe siècle. Et ce texte-là est un texte particulièrement intéressant, il est assez complexe, et c'est un retour, on peut dire, d'Arachné dans notre monde à nous, n'est-ce pas? Donc on va vous lire un extrait pour vous montrer comment elle revient. Presently, a small muffled voice said,
"Hello, who are you?"
with a slight foreign accent. Lydia looked around. The room was as empty as before.
"No, here,"
said the muffled voice. She looked down again at the jar and saw the spider pointing to itself with its number 2 leg on the right.
"My name,"
said the voice sociably,
"is Arachne. What's yours?"
"Lydia," said Lydia uncertainly.
"Oh dear, why?"
asked the voice. L'instant d'après, une petite voix sourde dit
« Salut, qui es-tu ?»
avec un léger accent étranger. Lydie regarda autour d'elle. La pièce était aussi vide qu'auparavant.
« Non, ici, »
dit la voix sourde. Elle baissa de nouveau le regard sur la cloche et vit que l'araignée se désignait de la patte numéro 2 du côté droit.
« Mon nom ?»
dit la voix d'un ton affable.
« Et Arachné, quel est le tien ?»«
Lydie, » dit Lydie, son grande assurance.
« Oh là là, pourquoi ?»
demanda la voix. Lydie se sentit un brin dépitée. « Qu'entends-tu par pourquoi ?» demanda-t-elle.
« Eh bien, autant que je m'en souvienne, Lydie a été expédiée en enfer. » Puni pour les horreurs faites à son amant, j'imagine que tu n'es guère porté à...
Sûrement pas, dit Lydie en coupant court à la voix.
Oh,
dit la voix incrédule.
Pourtant...
important, on ne t'a sûrement pas donné ce nom pour rien. Remarque-moi, je ne le lui ai jamais reproché à Lydie. Les amants, dans mon expérience, méritent bien.
Lydie, qui inspectait de nouveau la pièce du regard sans grande assurance, ne perçut pas le reste. Je ne comprends pas, dit-elle. Je veux dire, est-ce bien...
Oh, c'est bien moi, tout à fait, dit l'araignée. Et pour l'en convaincre, elle se désigna de nouveau, cette fois-ci, de la troisième patte du côté gauche.
Mais les araignées ne...
Bien sûr que non. Les vraies araignées, non. Mais moi, je suis arachnée, je te l'ai dit.
Un souvenir brumeux s'éleva au tréfonds de la mémoire de Lydie. Tu veux dire la célèbre arachnée, s'enquit-elle.
As-tu jamais entendu parler d'une autre?
Je veux dire celle qui vexa Athéna, encore que je ne me rappelle plus très bien de quelle manière.
Absolument. De fait, j'étais une fière lycière célibataire. Athéna en fut jalouse et...
J'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. Ah, je vois, tu parles plutôt du tissage que du...
C'est bien ce que j'ai dit. J'étais la meilleure filandière et tisserande, et quand j'ai remporté le concours public et panhellénique et battu Athéna, elle n'a pas pu l'avaler. Elle était si jalouse que de rage, elle m'a changée en araignée. Laisser les dieux et les déesses participer au concours, c'est de la concurrence déloyale, je l'ai toujours dit. Rancunier, mauvais perdant, ils vont raconter partout des mensonges sur votre compte pour justifier leur mauvaise humeur et leur riposte. On t'a peut-être raconté une autre version,
ajouta la voix sur un ton où pointait le défi. Non, il me semble qu'elle était assez ressemblante, dit Lydie avec tact. Tu dois donc être araignée depuis très longtemps, ajouta-t-elle.
Oui, je crois, mais on cesse de compter après quelque temps.
La voix manqua un arrêt, puis reprit.
Écoute, ça te dérangerait d'enlever cette chose de verre? On étouffe ici et puis je n'aurais pas à crier.
Lydie hésita. Je ne touche jamais à rien dans cette pièce. Autrement, mon mari se fâche terriblement.
Elle est sous une cloche de verre, hein, c'est ça l'histoire. Oh, nulle crainte que je m'évade, je t'en donne ma parole si tu veux.
Mais Lydie restait indécise. Ton cas est plutôt désespéré, tu sais, dit-elle en jetant un regard involontaire du côté de la bouteille d'alcool. Parce que le mari est collectionneur d'araignées, et ça se passe dans la pièce où il collectionne les araignées, et il les met dans des tubes d'alcool.
Pas vraiment, dit la voix sur un ton qui suggérait un haussement d'épaule. On m'a souvent capturé par le passé, quelque chose finit toujours par arriver. Forcément. C'est un des rares avantages des malédictions vraiment permanentes. Tout accident vraiment fatal devient impossible. Voilà. Alors vous saurez la suite en lisant le livre.
Non, mais c'est un peu compliqué de raconter comme histoire. C'est pas pour cette raison. C'est un peu compliqué. Et puis, si on la raconte comme ça, ça lui enlève beaucoup de son...
Ouais. En tout cas, c'est une réhabilitation par rapport à ce qu'on a entendu précédemment de la figure d'Arachné.
Tout à fait.
Qui là devient nettement plus sympathique, quoique dangereuse, mais très sympathique. Voilà, donc effectivement mise à distance, comme vous l'aviez dit. Il y a dans la section, ensuite, on change d'univers avec la section que vous avez intitulée « L'araignée des familles ». Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, là, on a décidé de faire une section sur l'araignée des familles parce que la psychanalyse a beaucoup insisté sur la figure de la mère araignée, qui est la mère dévorante, qui absorbe ses enfants... Et d'ailleurs, vous vous rappelez que lorsque Athéna maudit Arachné, elle l'a maudit avec sa lignée. Et on a d'ailleurs d'autres mythèmes, parfois dans des petits commentaires anonymes, qui reprennent cette idée. Alors, on s'est approprié.
Je suis désolé, je fais un raccourci, mais il m'est revenu quelque chose que je voulais évoquer avec vous.
Oui.
Sur le texte précédent. Alors, si vous me permettez de faire une petite marche arrière, bien sûr, un petit zoom arrière, c'est cette question de la traduction d'une chose quasiment impossible à traduire, qui est spinster, dont on parlait tout à l'heure. Parce que ça, je pense que ça va intéresser les traducteurs d'anglais. Comment se débrouiller face à ça, avec ce double sens, spinster qui veut dire à la fois célibataire et en même temps lissière, quoi.
Alors, C'est un texte, ça a été un texte difficile à traduire, pas seulement pour ça, mais aussi, vous l'aurez compris peut-être, que ces deux personnages qui se parlent, l'un s'appelle Lydie et l'autre Arachné, mais c'est le même personnage, hein, puisque Lydie est un prénom que les écrivains anglais utilisent très fréquemment pour nommer une sorte de figure de femme araignée, pour la simple raison que Arachné est originaire de Lydie, en Asie mineure. Donc il y a, ce sont deux figures qui se ressemblent de près, même si elles ne le savent pas. Enfin, c'est surtout Lydie qui ne le sait pas. donc, spinster. Spinster est un autre mot que les écrivains anglais ont utilisé dans les deux sens du terme. Et là, il y a dans le dialogue, vous vous êtes aperçu, un jeu sur ça. Donc, spinster est normalement le féminin de bachelor, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire femme non mariée. Pas nécessairement vieille fille, n'est-ce pas?
Est-ce que
dans les passeports, dans les pièces d'identité, quand on n'est pas marié, on est spinster et on n'est pas vieille fille pour autant.
C'est parce qu'il fallait broder son trousseau avant le mariage ou c'était d'où ça peut venir?
Je ne sais pas. Bon, je ne me prononcerai pas sur le trousseau parce que j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur les trousseaux et non,
bon, non.
Pas ce soir. Mais en tout cas, donc, on dit spinster pour dire célibataire au féminin. Et évidemment, les écrivains l'ont utilisé. Donc, célibataire, cela correspond aussi à une attitude dans les relations à l'autre sexe. Cela veut dire volontairement femme non mariée, en l'occurrence. Donc, on a deux éthiques, d'ailleurs, qui s'opposent, parce que Lydie est une femme mariée, dans un mariage qui n'est pas très heureux, mais enfin, elle
qui prend... tourne, quoi.
Voilà. Elle prend la vie comme elle vient. Et il y a en plus ce mari collectionneur d'araignées qu'elle déteste. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et lorsque le dialogue s'engage, il y a ce quiproquo qu'il fallait traduire donc autour de spinster. L'une parle du tissage et l'autre parle des relations sexuelles. Donc comment faire? Et j'ai eu l'idée de traduire par une rime en ajoutant un mot supplémentaire. Donc j'ai traduit lissière célibataire et Sylvie m'a dit... Parce que ce livre, on l'a fait réellement à deux. C'est-à-dire que, comme vous le verrez, il y a des notices qui sont signées et des traductions qui sont signées de l'une ou de l'autre, ou des deux d'ailleurs. Mais on a discuté tous les passages. Et donc, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'est en lui expliquant qu'on s'est rendu compte que tout le monde ne connaissait pas nécessairement le terme lissier, qui vient de haute lisse, hein, c'est exactement le même terme qu'on a dans haute lisse, une manière de qualifier la tapisserie. Donc il y a eu une petite note, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de dire plutôt une fière lissière célibataire, parce que ça contrebalancer un petit peu l'effet d'étrangeté que pouvait avoir lissière. Le lecteur ne se sentait pas coupable nécessairement de ne pas savoir ce que c'est qu'un lissier. Il se disait, ah, une fière lissière, c'est un truc bien. N'est-ce pas? Et voilà, c'est d'ailleurs très bien. Elle est fière de ce qu'elle a fait, hein, même si elle est critiquée dans la nouvelle. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais vous savez, en traduction... Voilà.
Bien.
On fait ce qu'on peut.
Pardon pour cette digression, ce retour en arrière. Et en tout cas, je pensais que ça valait le coup d'être entendu. Maintenant, revenons aux familles et à la psychanalyse.
Oui. Alors, on s'est aperçu, je vous parlais de la mère araignée, et on s'est aperçu que les psychanalystes, en fait, ne sont pas très certains de l'origine de cette idée de la mère araignée. Et il fonctionne par couple. Il y a un couple qui est très très connu, c'est Freud et Abraham, qui se renvoient la balle. Abraham dit d'abord c'est Freud, et Freud dit c'est Abraham. Donc ça nous a paru très curieux, on en a trouvé un autre couple qui pratique le même type de ping-pong, non c'est pas moi, c'est lui, etc. Et on a regardé les textes de plus près. Alors, on a, comme souvent d'ailleurs, la littérature fin de siècle, dans ce cas-là, a inventé la figure de la femme araignée bien avant que la psychanalyse n'y pense. Et d'autres écrivains l'ont déconstruite. Alors, on a retenu, et je crois que c'est là qu'on voulait s'arrêter, on a retenu un poème d'un écrivain italien qui sème l'ambiguïté, parce que justement, l'enfant est un jeune homme moribond, et sa mère vole à son secours. Ce n'est pas une mère araignée, au contraire. Et à ce moment-là, on a un petit passage sur une araignée qui est... Ça se passe dans la Versilia, ça se passe dans un village, au pied du mont Carcio d'ailleurs, et on a tout d'un coup une description qui fait figure d'ekphrasis d'ailleurs, qu'on pourrait interpréter comme la toile même de l'araignée faite par le poète, sur cette araignée qui a tissé sa toile dans le... Alors en italien peut-être.
Vous nous la faites entendre en italien, parce que aussi ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce volume, cette anthologie, donne tous les textes traduits en bilingue. Donc c'est ce qui explique aussi son épaisseur, mais c'est voilà. Donc profitons-en pour entendre les textes dans leur version originale aussi.
Sotto il trave maestro, un ragno bigio aveva testato un ragnatelo enorme dai contorni bizzarri e paurosi. In centro era rotondo come un sole, che avesse naso ed occhi di pagliaccio e la bocca sdentata della morte. E in giro erano tentacoli ad oncino, come le antiche ruote del martirio e come la corona del buon Dio. Da levante a ponente a mezzogiorno e verso tramontana sopra un filo stava teso su quattro ali di falco. Parea la croce dell'eternità.
Sous la poutre maîtresse, une araignée grise avait tissé une toile énorme au bord bizarre et effrayant. Au centre, bien ronde comme un soleil, qui aurait un nez et des yeux de clown, et la bouche édentée de la mort, et, tout autour, des tentacules crochus comme les anciennes roues des supplices, et la couronne du bon Dieu. De l'Orient au couchant, à midi et vers la tramontane, sur un fil, elle se tendait sur quatre ailes de faucon. On dirait la croix de l'éternité.
Oui, on sent bien l'ambiguïté hein, dans ce passage. Elle est tantôt comme une face de clown, tantôt comme la couronne de bon Dieu, tantôt comme une figure édentée de la mort.
Oui. Oui. Et la référence à la croix aussi, c'est parce que c'est une araignée porte-croix, c'est ça.
C'est une araignée porte-croix, donc c'est une épère. Hein, et la littérature a souvent joué sur le fait que c'est un animal qui porte sur lui-même la croix. Donc c'est un animal christique, n'est-ce pas, d'une certaine façon. La Kreuzspinne.
Kreuzspinne en allemand, oui, effectivement. C'est l'épère diadème, si on vraiment prend le nom scientifique en français, si vous allez voir une figure sur Internet, on voit qu'elle a un abdomen assez gros et qu'elle a une avec des petits points qui dessinent une croix blanche sur son dos. Et elle est très jolie, pleine de couleurs.
Voilà, alors, autre texte réjouissant sur cette figure de la mère araignée, on a un texte de Tommaso Landolfi, qui est un écrivain italien du XXe siècle, très important en Italie, pas suffisamment connu en France, qui s'intitule « Le papa de Kafka ». Alors ce n'est pas, et on l'a retenu parce que... Il babbo di Kafka, ça montre très bien que les obsessions, si vous voulez, familiales, ne sont pas nécessairement sexuées. Et la figure de la mère araignée peut être totalement renversée par cette figure du père araignée, qu'on va vous montrer d'ailleurs.
Et ce n'est pas un hasard si c'est un texte italien, ça aussi on peut l'évoquer.
Alors, j'ai oublié de vous montrer la couverture du recueil dont vient le poème de Pea qu'on lisait. Vous voyez, c'est là aussi une allégorie avec la figure de l'araignée centrée sur le soleil. Elle est faite avec le nom même du poète qui s'appelle Enrico Pea. Et on a cette image d'une femme qui porte un enfant et qui est rattachée par cette longue chaîne qu'on peut peut-être interpréter comme le fil de la vie ou peut-être le long esclavage de l'humanité. Il y a différentes interprétations possibles. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'araignée soit associée ici au soleil et que ça ne soit pas du tout une mère dévorante.
Me rendant aux instances d'un grand nombre d'amis, je raconterai brièvement l'épisode qui devait avoir une si grande influence sur la vie du maître, ainsi que sur la mienne.
Et si maintenant, entre les battants de cette porte qui était à peine entr'ouverte, s'insinuaient deux ou disons plusieurs pattes très longues, minces et velues. Et si la porte elle-même, cédant à la pression et s'ouvrant peu à peu, apparaissait une énorme araignée grosse comme une corbeille à linge.
Eh bien.
Attends, je ne t'ai pas tout dit. Si cette araignée avait à la place du corps une tête d'homme qui te regardait fixement d'en bas, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu te tuerais, non?
Moi, mais ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Pourquoi diable faudrait-il que je me tue? C'est elle plutôt que je tuerais.
Moi, oui, au moins, je me tuerais. Bon Dieu, vivre dans un monde où des choses de ce genre sont possibles.
Et moi, je peux te dire que je ferais n'importe quoi plutôt que me tuer, non? Pas même en rêve.
Kafka n'avait pas fini de prononcer ces mots. Et il était encore en train de regarder la porte entr'ouverte avec un air de défi lorsque le bâton tourna lentement sur ses gonds. Alors se produisit point par point la scène que j'avais imaginée. Dans la pièce à l'écart où nous étions en train de dîner, nous nous levâmes d'un bond, terrifiés.
L'araignée, ou la tête d'homme, mollement suspendue sur ses longues pattes, avançait vers la table et nous regardait avec une certaine expression de méchanceté.
Eh bien, criai-je quasiment en larmes, je l'avouais bien. Pourquoi est-ce que tu ne la tues pas tout de même?
Mais Kafka regardait l'animal ou homme, les yeux écarquillés et ne bougeait pas un doigt, sinon qu'il était en train de reculer insensiblement vers un coin de la pièce. Le fait est que cette tête, comme je l'appris par la suite, était précisément la tête de son père, mort bien longtemps auparavant. Celui-ci, en regardant Kafka, avait sa pire expression, les yeux injectés de sang et presque de travers, la lèvre supérieure tordue d'un côté en signe de rage, comme lorsqu'il faisait ces scènes fastidieuses dont maintenant Kafka se souvenait parfaitement, en haussant la voix de la manière la plus désagréable.
Maintenant, il ne parlait pas, peut-être parce qu'il ne pouvait pas. Mais ça se voyait, il était presque sur le point d'éclater de l'envie de crier. La tête, avec le visage tourné vers le haut, était un peu inclinée, dans la position d'un crapaud.
Qu'est-ce que j'ai encore bien pu faire? Se demanda Kafka, repris par ce sentiment angoissant qu'il avait enfant quand il était visé par ces scènes, sans en avoir exactement la raison. Papa, murmura-t-il. Alors. Tout de suite, oui, alors comment ça se fait que là, parce qu'on est en italien, il y a quand même un truc à dire, ou alors on le dit plus tard, oui. Mais il y a un truc qui,
non,
qui quand
on
même...
on peut le dire tout de suite.
On peut le dire tout de suite. Oui. C'est de quel genre en italien
la... En italien, l'araignée n'est pas du tout du genre féminin, c'est il ragno. C'est il ragno, donc c'est un araignée.
Donc comment font les psychanalystes italiens?
Et les psychanalystes italiens n'y peuvent rien. Alors, il y a il ragno, mais il y a aussi une figure très ancienne dans la poésie italienne qui s'appelle la ragna amorosa. Donc l'araignée de l'amour, hein, qui est du féminin. Voyez. Et ça aussi, c'est tout ce qui tourne autour du lac, avec un S, du piège amoureux, dans lequel le poète lui-même est impliqué. Tout ce qui tourne autour de cela a à voir avec l'amorosa araña. Donc, il y a les deux, d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a l'animal qui est au masculin, ça, il n'y a pas de doute, Et il y a des figures dans la langue qui font qu'on puisse penser l'amour comme un piège. Finalement, ce n'est pas si étonnant que cela, étant donné que l'animal, dans certaines espèces, l'araignée femelle est beaucoup plus grande, plus grosse que l'araignée mâle. Et donc, la figure de la femme araignée prend aussi pied sur le fait que souvent, après l'union sexuelle, le mâle tente de quitter la toile. Il est plus petit, il tente de quitter la toile, alors que la femelle cherche à en faire sa proie. Donc il y a une chasse sur la toile elle-même. L'araignée femelle cherchant à capturer.
Alors ce genre masculin de l'araignée en italien, il ragno, c'est directement dans le texte suivant qu'on avait prévu. Pardon, je vais un petit peu au pas de charge, mais parce qu'on avait prévu de parcourir comme ça l'anthologie avec quelques exemples pour vous donner envie. Et donc il y a un texte italien également qui suit et qui est celui de Primo Levi. Mais là, on est dans une autre section. On est dans la section que vous avez intitulée « Une araignée au plafond ».
Oui.
Car effectivement, comme vous avez évoqué tout à l'heure, l'araignée est au plafond en français et Spinnen en allemand, c'est travailler du chapeau. Donc on a ce texte qui s'inscrit bien dans cette problématique liée aux araignées et peut-être que vous pouvez nous le lire.
Oui.
Enfin, nous lire l'extrait qu'on avait choisi.
Alors, Primo Levi, qui était arachnophobe, c'est un des derniers textes de sa vie, fait un texte très intéressant où il cherche à pénétrer les causes de son arachnophobie. Et la partie la plus intéressante, c'est qu'il entre en dialogue. C'est un article publié dans l'Instampa, pour commencer. Donc, c'est un article qui s'adresse au grand public. Et il ne s'intitule pas Arachnophobia, hein, comme ça serait possible, ça s'intitule Paura dei ragni. Donc, peur des araignées. Parce que justement, il s'agit de parler à tout un chacun, arachnophobe ou pas, n'est-ce pas, qui comprend le terme savant ou qui ne le comprend pas. Donc, on vous lit juste la fin de ce texte. Il y a sans doute autre chose encore. Les vieilles toiles d'araignées, des caves et des greniers sont chargées de poids symbolique. Elles sont les bannières de l'abandon, de l'absence, du déclin, et de l'oubli. Elle voile les œuvres humaines, les enroule comme dans un suaire, mortes comme les mains qui les ont construites il y a des années, des siècles. Et l'on ne peut ignorer la façon furtive et pour le coup, oui, très particulière, dont les araignées entrent en scène. Non pas avec le vrombissement guerrier des guêpes, ni avec la détermination fulgurante des souris, mais par des fissures invisibles, du pas lent et sans bruit des fantômes. Parfois, elles chutent droit du plafond noir dans le cône lumineux de la lampe, inattendues, pendues à leur fil métaphysique. Et leurs toiles nocturnes aussi sont spectrales. On ne les voit pas, mais on en sent la viscosité sur le visage quand le matin, nous passons entre les haies d'un sentier que personne n'a encore foulé.
Quant à ma phobie personnelle, est ténue, elle a un acte de naissance. C'est la gravure de Gustave Doré qui représente Arachné au champ 12 du purgatoire et qui fut un grand choc dans mon enfance. La jeune fille qui avait osé défier Minerve dans l'art du tissage est punie par une métamorphose immonde. Dans le dessin, elle est déjà moitié araigne. Et elle est ingénieusement représentée toute renversée, les seins plantureux là où on s'attendrait à voir le dos, et de ce dos sortent six pattes noueuses, velues, douloureuses, six, qui, avec les bras humains qui se tordent désespérés, en font huit. À genoux, devant le nouveau monstre, Dante semble en contempler les parties naturelles, à demi dégoûté, à demi voyeur. Voilà, donc effectivement, c'était bien d'avoir l'illustration de Gustave Doré sous les yeux, qui est, oui,
qui
certes,
est saisissante.
On, Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Primo Levi avant qu'on aille vers la conclusion de cette présentation?
Dire peut-être que ce texte, en fait, nous parle du rapport plus du rapport de Levi à Dante que des origines de son arachnophobie, je pense. Parce que, vous voyez, il se passe ici, il y a un phénomène de superposition, en fait, si vous connaissez Levi un peu comme écrivain, et si vous avez suivi la fortune de son œuvre, vous savez que lorsqu'il a écrit « Sequestro e un uomo », si c'est un homme, qui est son premier récit, il a été très mal accueilli par les maisons d'édition, assez mal par la critique, avant que ça ne devienne le grand texte de référence que c'est devenu sous l'influence des événements qu'on connaît. À l'origine, donc, c'est un homme qui revient des camps de concentration, qui a survécu par miracle grâce à son métier. Et cette histoire de comment il a pu survivre, lui, grâce à son métier et pas les autres, va le travailler longuement, jusqu'au moment où il se donnera la mort. Et la figure de l'araignée et de son arachnophobie revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Quand il dit « ma phobie personnelle est ténue », c'est un mensonge pieux, parce que cette phobie n'est pas ténue. Elle est assez étendue. Lorsqu'il revient donc du camp des concentrations et il a besoin d'écrire ce livre, il revient au modèle d'école. Et le modèle d'école, le modèle scolaire par excellence, c'est la Divine Comédie de Dante. D'ailleurs, dans le « Sequestro e un uomo », il y a un chapitre où il transporte la soupe et il y a une récitation du chant d'Ulysse, d'ailleurs. C'est un passage assez célèbre. Vous aurez peut-être observé que Dante est ici en position de... Il dit « mi-dégoûté, mi-voyeur ». Mais il est aussi en position d'observateur scientifique, n'est-ce pas ? Ce que Levi a été toute sa vie. Et on voit dans un dernier texte de Levi sur les araignées, juste avant qu'il se donne la mort, une interrogation extraordinaire il est en train de se demander, il était chimiste et spécialiste des vernis. Et il se demande pourquoi les vernis. Donc la propriété principale des vernis, c'est qu'on l'applique et le vernis sèche. C'est sa propriété principale. Alors que le sang, lui, ne se coagule pas nécessairement comme le vernis se coagule. À savoir que le sang peut ne pas se coaguler, la plaie peut continuer à suinter ou à couler, et donc la mort peut survenir. Et c'est sur cette idée-là qu'il parle de la manière dont les araignées se nourrissent, et on comprend finalement que pour lui, l'araignée est la croix gammée. La forme de l'araignée représente la croix gammée, et donc c'est une obsession qui va au fond de sa création. Je pense qu'à ce moment-là, il saisit peut-être le cœur même de son obsession. Et il se dit qu'il n'y a pas d'espoir, peut-être. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Je ne veux pas dire qu'on tient là la clé du suicide de Levi. Mais vous voyez, quand on a passé par toutes ces étapes et on revient toujours à l'origine, qui est ce texte qu'on a découvert enfant, ce texte qui vous a frappé d'une certaine manière, et ce texte qui met en scène quelque chose d'innommable, et en même temps... d'humain, de profondément humain. C'est une théorie très, très puissante et perturbante chez Levi, parce qu'il cherche pendant toute son œuvre à s'expliquer pourquoi l'homme peut tuer l'homme. Comment est-ce possible? Et il a une idée qui est géniale. Il dit, mais c'est comme les deux mains. C'est symétrique et en même temps asymétrique. C'est les deux mains, vous pouvez les joindre, mais en même temps, si vous les regardez, elles ne sont pas superposables. C'est les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc, autour de... C'est une idée extraordinaire, je trouve. Et en plus, il faut qu'ils le disent pour qu'on le pense. Alors qu'on vit avec ça tout le temps.
Merci. Est-ce que, alors, pour aller vers la conclusion, vous voulez qu'on lise encore juste un petit texte qui fait partie de la dernière section qui est araignée d'art. Je l'évoquais en introduction, c'est aussi une dimension des araignées. L'araignée est une arachnée, en tout cas, est une artiste, qui est même une grande artiste puisqu'elle défie elle défie Athéna et gagne le défi. Cette figure de l'araignée a aussi a été interprétée comme une figure d'artiste par de nombreux écrivains. Et dont, par exemple, celui que vous aviez choisi de faire connaître, James Whitcomb Riley.
James Whitcomb Riley, qui est un écrivain américain complètement inconnu aujourd'hui. Il a écrit l'histoire d'une araignée où un écrivaillon, en fait, qui s'occupe de tâches diverses et variées, reçoit la visite d'une araignée qui vient qui descend du plafond, au son de sa guitare d'ailleurs, qui danse de manière frénétique sous ses yeux, et qui le pique à la main. Et donc, on va vous lire un passage. Alors évidemment, il souffre de délire, hein, mais vous verrez qu'il ne se passe pas que cela.
Ce qu'il est peut-être bon d'ajouter aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il est piqué à la main, il crée un sonnet.
Il produit un sonnet.
Donc c'est assez pratique quand même.
Et il a fallu les traduire, les sonnets. Donc, j'attendis donc que ce fût tellement calme que ça n'était visible. Et alors l'araignée vint en glissant dans le calme. Et quand elle eut touché le porte-plume et que je l'eus bien regardé, une idée me traversa l'esprit en me paralysant jusqu'à la moelle. Elle était si pâle. Avez-vous jamais vu une araignée après une longue maladie? C'est l'air qu'avait cette araignée. Je frissonnais en la voyant replier ses pattes tremblantes et se poser. Alors la plume se mit en mouvement, l'insecte pâle, affreux, hagard, hochant de nouveau la tête comme s'il avait encore remporté la victoire. Et comme à la fin, je le vis me renvoyer ce même sourire maudit. Ma pitié et ma compassion partirent en fumée. Je sentis mon cœur rugir de rage et ronger son frein saignant d'une haine mortelle. Et quand l'araignée, en descendant clopant, le porte-plume me retoucha la main, la seule piqûre que je sentis, ce fut le coup vengeur que je lui assénai de l'autre main, la tenant et la broyant là, avec un cri de triomphe qui retentit dans le silence, si bien que les échos battirent des mains et hurlèrent avec moi, « Morte ! Morte enfin ! Morte ! Morte ! Je suis libre !»
Voilà, il est quand même il tue sa source d'inspiration, c'est un écrivaillon, pas capable de supporter la piqûre. Bon, merci beaucoup. Alors, j'ai toujours maintenant, depuis... 2 mois, une sorte de boussole intérieure pour la durée d'une rencontre littéraire, c'est quand ma fille commence à s'impatienter. Et elle donne un petit peu la moyenne de capacité d'attention du public qui ne saurait excéder 1 heure. Et elle est parfaite pendant 1 heure, et puis après on commence à l'entendre. Donc je me dis qu'il est peut-être temps de mettre fin à cette rencontre, mais auparavant, bien sûr, un petit temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions ou même des commentaires, c'est le moment peut-être de faire circuler un micro parmi vous, ou même pas. Enfin, on est peu nombreux, on peut aussi se parler comme ça.
Ou peut-être des traductions ingénieuses.
Pourquoi spinster et célibataire et pour l'anglais. Et il y avait juste une petite notice, juste un petit paragraphe dans un des dictionnaires qui disait que il y avait cette idée que puisque la femme était célibataire, si elle était célibataire, il fallait qu'elle le subvienne à ses besoins et qu'un des métiers qu'elle ferait traditionnellement serait filer.
Oui. Filer la laine.
Voilà, filer la laine. Donc, comme ça.
Oui.
Merci.
Oui, c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité. Vous connaissez il y a un dialogue célèbre d'Andromaque et d'Hector sur les remparts de Troie, où Andromaque essaye de le retenir, hein, qu'il ne descende pas se battre, hein, et il répond très fièrement aux femmes les travaux de laine et aux hommes les travaux de guerre. Oui, c'est une explication tout à fait possible.
J'ai juste une petite remarque et une question. Le dialogue entre Lydie et Arachné m'avait fait penser beaucoup au dialogue entre Alice et Humpty Dumpty dans l'autre côté du miroir. Oui. Soit parce que pour la question du nom commun et nom propre qui sont reliés. Et aussi parce que dans les deux cas, c'est soit une hallucination d'une folle et dans l'autre... un rêve ou plutôt une expérience de passer de l'autre côté du miroir, donc dans une sorte de réalité parallèle, autre, comme l'autre côté, comme l'autre main. Mmh. Et dans les deux cas, il y a une histoire, un mythe dans un cas et une comptine dans l'autre, qui est connue par un personnage, pas par l'autre. Donc il y a des dynamiques similaires. Et ma question, c'était plutôt quel est, à votre avis, le lien, s'il y en a un, entre le mythe d'Arachné et celui d'Ariane et du Minotaure ?
Oui, je vois pas beaucoup travailler là-dessus. Il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, il y a le fil. Ariane est celle qui donne à Thésée, c'est la version la plus connue du mythe, elle donne à Thésée le fil pour qu'il sorte du labyrinthe. Donc c'est une figure salvatrice qui vole à son secours, et puis Thésée l'abandonne, n'est-ce pas, sur une île.
Soit elle se tue dans certaines versions.
Alors dans certaines versions, elle se tue et elle se pend.
Oui.
Donc le fil la poursuit. Donc Schwab fait quelque chose de très intéressant, puisque ce délire dont vous avez entendu une partie part de l'histoire du narrateur qui est fou en fait, avec une brodeuse qui s'appelle Ariane, qui est une femme infidèle qu'il tue, donc il se trouve en prison et tout le délire qu'on lit se raconte depuis la prison pour avoir tué Ariane tout en jurant qu'il n'est pas fou. Il y a derrière tout cela quelque chose de très puissant et qui va très très loin, c'est la figure d'Ariacné, telle qu'elle apparaît dans une pièce de Shakespeare, Troïle et Cressida. À un certain moment, vous savez que les textes élisabéthains sont incertains, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le texte élisabéthain que nous lisons aujourd'hui, dans par exemple une édition Norton ou n'importe, est un texte normalisé. Et le texte shakespearien ou le texte élisabéthain, pas seulement le texte shakespearien, c'est pareil pour tous les autres grands dramaturges élisabéthains, est un texte qui brille par son incertitude. On a donc des variantes. Et ce sont ces variantes qui sont souvent passionnantes parce qu'on ne lit pas la même chose. Et lorsque Troïle, à un certain moment, donc, le fil du monologue se scinde. Il y a une sorte de délire qui s'instaure dans le discours et on emploie la figure d'Ariacné, c'est-à-dire une figure complexe entre Ariane et Arachné. Et bien sûr, on peut être un philologue excellent et dire ça, c'est une version, disons, non admise. N'est-ce pas une version, oui, une fausse version à écarter, à mettre dans la paracritique ou même à ne pas mentionner, rétablir le texte, etc. Et je crois que la philologie a longtemps fonctionné comme cela, jusqu'à la nouvelle philologie, etc. Mais cette figure d'Ariacné, à ce moment-là, lorsque le délire s'installe, est particulièrement intéressante. Et il y a un article de John Hillis Miller qui a beaucoup travaillé sur les figures du fil là-dessus. Si ça vous intéresse, je peux vous l'indiquer. Donc il y a, oui, il y a des liens très forts. Surtout sur ce que montre Mella est que lorsque les deux figures se rencontrent, il y a une sorte de, d'intensification du motif de la folie, dans ce cas précis.
Je propose qu'on continue la conversation autour d'un verre. Je voulais juste vous signaler que donc, le livre est là-bas en vente, et que nous avons aussi sur la table un recueil de poèmes traduits par Evangelia Sted de Niki Rebecca Papageorgiou, donc traduit du grec moderne. On avait eu le plaisir de vous accueillir en librairie à Paris lors du précédent printemps de la traduction, pas celui de cette année, celui d'avant. Et voilà, c'était un... J'ai pas pu y assister parce qu'on avait une programmation parallèle, mais je me souviens que ça a établi une sorte de record cette soirée. C'était une librairie qui pouvait accueillir maximum 20 personnes. Il devait y en avoir 23, dont 18 qui ont acheté le livre. Enfin, vous avez été très convaincante à ce moment-là.
Non,
la légende. Non, mais c'est à peu près ça. Bon, bref. En tout cas, c'est un recueil passionnant. Et si votre. Qui sera moins lourd dans votre valise que celui-là, si vraiment vous êtes limité au niveau poids. Voilà. Bonne soirée à tous.
Merci de votre accueil, hein, encore une fois, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir de venir ici et de parler de toutes ces choses.
Plaisir partagé.